Impact Média, le podcast.
Lancer un média, ce n'est pas forcément être journaliste. Et ce n'est pas uniquement le fait de journaliste. La démocratisation des moyens de production, la fin de la majorité des barrières industrielles, la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous de lancer sa chaîne YouTube, son blog, son podcast, a considérablement réouvert le champ des possibles. Et donc les profils de ceux qui aujourd'hui lancent des médias. De plus en plus, on s'empare d'un sujet que l'on maîtrise ou qui nous passionne. On en parle, on l'analyse, on le décrypte sur nos médias personnels. Et parfois, on rencontre une audience qui nous permet d'envisager de devenir un vrai média, entre guillemets. Et cela renouvelle considérablement les voix que l'on peut entendre ou lire, et cela fait du bien. Notre invitée de ce matin est directrice artistique de formation, mais elle a eu envie de mettre son savoir-faire au service d'un sujet qui la passionnait, les femmes. Elle a eu envie de les inspirer et de comprendre leurs aspirations. Perrine Bonafo a donc créé Les Confettis, dont le 5e numéro papier vient de sortir. Perrine est notre invitée aujourd'hui et elle va nous raconter cette joyeuse aventure. Salut Perrine.
Bonjour Mathieu.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'aujourd'hui les Confettis ?
Alors c'est une revue semestrielle que je dirais élégante. Qui met en avant des parcours de femmes, des modes de vie, leur choix de vie, dans des univers aussi variés que des aventurières, des artistes, des entrepreneurs, des femmes au foyer. Enfin, c'est très large.
Le choix, c'est le papier à la base, c'est aussi une plateforme web. Comment s'est fait cette réflexion, cette décision sur le type de média que tu voulais créer ?
Alors, dans mon esprit, je ne créais pas un média, je créais un objet. Pour moi, en effet, il y a un site qui en fait était un blog personnel qui a évolué en webzine au fur et à mesure des années, mais qui était pour moi une dimension vraiment personnelle presque de l'ordre du hobby et qui a rejoint aujourd'hui un peu ma casquette pro. Mais c'est plutôt vraiment l'envie de sortir un objet, une revue. Parce que je travaillais justement, tu le disais, en tant que directrice artistique, mais dans la presse indépendante. Et on va dire que, de par les contraintes clients et les compromis du quotidien, j'étais pas totalement satisfaite du produit fini, en tout cas toujours du rendu, ou du moins il me correspondait pas toujours totalement de par les positionnements éditoriaux ou autres. Et donc à un moment donné, j'ai eu envie de créer le magazine que j'avais envie de lire, tout simplement. Et tu parles des femmes, mais en vrai, au début, pour moi, ça a été assez difficile, délicat, presque, de m'avouer que j'allais faire un féminin. Parce que
parler des femmes, c'est forcément faire un féminin, au final.
Je pense, parce que je lisais des féminins, mais je trouvais que ça se renouvelait pas trop et je trouvais qu'on passait assez vite dans la lecture, on retenait pas forcément grand-chose. Il y avait quand même une vision assez consumériste, assez quand même encore un peu superficielle. Et je trouvais ça dommage parce que j'avais l'impression qu'on n'est pas, que ça. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de rassembler un peu ce que j'avais envie de lire dans un seul objet et avec des préoccupations assez larges sur la société, sur le business, sur la famille, sur la déco, le lifestyle, les voyages. Je me disais, mais quand même, on peut sans doute trouver une formule comme ça. En tout cas, j'ai envie de tenter le coup et ça part vraiment d'une envie perso un peu de se faire plaisir quoi.
Avant de revenir sur les débuts, justement sur les confettis aujourd'hui, le 5e numéro est sorti. C'est combien d'exemplaires à chaque fois imprimés ? C'est quelle audience aujourd'hui sur le site ? C'est qui ton public ? Est-ce que aujourd'hui tu sais un petit peu qui sont ces femmes justement qui te lisent ? Ou d'ailleurs pas forcément que des femmes ?
Alors c'est quand même principalement féminin, je dois le reconnaître. Je suis pas hyper calée en chiffres, mais je dirais qu'on a de la chance d'augmenter notre tirage à chaque numéro. On a démarré à 2000 exemplaires, après 3, 5. Là, on est proche de 10 000 exemplaires, donc ça grandit et je suis hyper contente de ça. Quand je vois arriver les palettes, c'est assez... ça rend la chose assez concrète. C'est pas simple en stockage, mais c'est majoritairement des femmes. Elles ont entre 25 et 40 ans, 45 ans pardon. Elles sont éparpillées dans toute la France, donc ça je suis plutôt assez contente qu'elles soient pas uniquement aussi parisiennes. Ça c'est un peu un pari et c'est pas simple de sortir un peu, je trouve, du spectre parisien, étant moi-même basée à Paris et avoir la facilité en fait de mettre en avant des personnes qui sont plus proches de moi. Voilà, ce sont soit on va dire des jeunes actives qui rentrent dans le monde du travail, qui se posent des questions sur le monde qui l'entoure et qui ont une grande curiosité, soit aussi pas mal de personnes qui sont un peu en transition, en reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur avenir, comment redonner du sens à leur travail, ou des curieuses aussi, beaucoup de personnes qui, en fait, ça faisait aussi partie de mes points de départ sur le projet, qui se posent des questions sur le fameux équilibre vie pro vie perso, qui est un peu l'équation, enfin le Graal,
l'équation impossible.
Ouais, qu'on recherche tous, mais voilà. Donc c'est, je dirais que c'est un peu ce type de lectorat. Je le j'identifie un peu mieux maintenant parce qu'on se met aussi à créer des rendez-vous un peu physiques avec nos lectrices, et c'est là quand on les interroge qu'on prend vraiment conscience de ce qu'elles font, de leurs interrogations, donc c'est intéressant.
Aujourd'hui, c'est une équipe aussi, les Confetti, t'as pu t'entourer un petit peu au fur et à mesure.
C'est une petite équipe encore, ça reste vraiment petit. Je travaille avec deux personnes régulières qui sont en freelance, une rédactrice et une personne qui m'accompagne plus sur le développement en général. Parce qu'on a en fait plusieurs aspects. Aujourd'hui, je continue à avoir une activité en parallèle de cette activité sur les confettis, et je continue à être indépendante et à travailler pour des titres indépendants que je réalise, des magazines en fait clés en main pour des clients.
C'est une envie, toi, de maintenir un équilibre finalement entre ce projet qui est les confettis et une vie professionnelle qui, même si elle n'est pas très éloignée, que tu as besoin de maintenir parce que c'est une activité différente, ou au contraire, tu as eu l'ambition de faire des confettis un projet de vie et que ça devienne à un moment donné peut-être soit un projet à 100% pour toi?
Alors, je crois qu'au début, je ne me suis pas autorisée à croire que c'était possible d'en faire mon projet de vie et de vivre de ça. Je me suis un peu censurée, on va dire, et je pense que c'est dommage. C'est sans doute lié aussi peut-être à un âge, peut-être que j'aurais été encore plus inconsciente si je l'avais fait plus tôt, le fait d'avoir déjà une famille, un peu des responsabilités, mais je pense que c'est un vrai frein et que ça m'empêche aussi de le développer plus vite, plus fort et sans doute mieux. Donc petit à petit, on va dire que je fais les choses plutôt en douceur finalement, et que progressivement l'équilibre entre l'agence et le média s'inverse pour donner plus de place aux confettis, le développer mieux, et j'arrête certaines activités à côté pour me concentrer encore plus sur ce projet-là. Je crois que petit à petit, je commence à imaginer que ce soit possible de ne faire que ça, et qu'il y a, en fait, on a énormément de projets et du coup il y a tellement de choses à développer qui pourraient nous laisser croire
que c'est possible.
Je me dis bon, il faut aussi peut-être à un moment donné se donner les moyens complètement de le faire, et j'avoue, je suis encore un peu un frein à mon propre à une propre avancée sur
Et t'es un frein sur ton projet. Tu dis, tu penses en tant que femme, on dit souvent qu'il y a un petit peu de retenue ou de peur à se lancer dans ce genre de projet, ou aussi parce que dans les médias aujourd'hui, c'est un contexte qui n'est pas forcément évident. Il y a un discours qui est parfois assez négatif et parfois à juste titre sur le fait que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des modèles économiques, donc ça peut aussi réfréner un petit peu les envies, parce que finalement les signaux sont plutôt bons sur les confettis et sur les retours que tu as, et sur les annonceurs, et sur...
Oui, c'est vrai.
Etc.
Je pense que le premier frein était clairement le contexte, de savoir que ça me semblait quand même un peu utopique de pouvoir lancer un média comme ça, moi, arriver de nulle part sans réel appui, et de se dire que c'était possible. J'avais sans doute pas la meilleure formule par rapport à d'autres pour tout révolutionner, donc je me disais qu'il y a une place sans doute, mais après, de là à ce que ce soit un vrai succès, c'était peut-être pas possible. Après, je pense aussi qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arriverais mieux à identifier un peu ce frein ou cette peur, et je pense qu'elle est quand même aussi féminine. Je pense qu'on est un peu moins dans la prise de risque que des entrepreneurs masculins. Le mot ambition est un peu plus dur à prononcer, je pense, pour des femmes, alors que je lutte un peu contre ça, mais voilà, ça me rattrape malgré tout. C'est se faire violence, et ça se fait un peu par palier progressif, et je me dis finalement, je trouve que c'est pas compliqué, enfin tellement de lancer un projet comme ça, ça me semble beaucoup plus dur de le tenir. Et je me dis, bon, ben, à la rigueur, allons-y doucement mais sûrement. Et,
c'est souvent une des difficultés, effectivement. C'est que c'est finalement devenu quasiment facile de se lancer. Et c'est finalement la pérennisation et de faire exploser un projet qui est peut-être devenu plus difficile aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai que ça me fait peur. Je trouve que nous, on est quand même assez dépendants, même de plein de choses qui bougent et qu'on ne maîtrise pas. Je pense notamment à la promotion qu'on fait via les réseaux sociaux. Donc, on est quand même hyper dépendants. Notamment aujourd'hui d'Instagram, alors qu'on avait pas mal aussi misé sur Facebook, qu'on a complètement déserté. Aujourd'hui, Instagram est un outil de promotion. Je vois bien que les portées des posts sont de plus en plus réduites et qu'on va devoir trouver d'autres moyens. Donc, on est aussi dépendant de ça. Ça fait peur, quoi. Je me dis.
Cette communauté, justement, tu parlais des rencontres que vous commenciez à organiser. C'est aussi justement une volonté de mieux la connaître, mieux la rencontrer, mieux la maîtriser aussi dans votre contact, de créer ce lien direct qui soit physique ou autre, mais qui passe pas forcément justement par les plateformes.
Ouais, ça partait d'une envie de plus d'échanges, parce que c'est vrai que sur un semestriel, les rendez-vous sont assez espacés. On fait quand même une grosse fête à chaque sortie de numéro, et ça c'est super cool de rencontrer tout le monde, voir que ça devient concret, parce que on fait un peu son truc dans son coin et tout d'un coup quand il y a 200 personnes
qui se pointent, on fait toujours ça pour organiser des fêtes, quoi.
Au moins ça nous donne un vrai prétexte, et c'est cool, et c'est marrant de voir que au début on connaît tout le monde, c'est ses copains, c'est des proches, et au bout d'un moment en fait la proportion de gens qu'on connaît elle est vraiment petite par rapport aux lecteurs qui eux nous connaissent, qui attendent, qui ont toute leur collection, et ça fait ça fait vraiment quelque chose, quoi. Ça redonne du sens, et après des moments comme ça, on se dit, faut continuer. En fait, faut pas penser aux difficultés, et plutôt se dire qu'il y a quand même une attente, et ça semble, en tout cas, trouver son lectorat. Je pense qu'il y a vraiment un espace, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'avais ressenti cette envie, ce besoin, et je me rends compte que potentiellement...
T'es très proche de ta cible, au final. C'est dans ton projet, ça s'entremêle beaucoup entre, finalement, ce que tu es, le fait de lancer les confettis, tes hésitations, et en même temps, ces femmes dont tu parles, qui lancent leur projet, qui viennent parler de leurs propres hésitations, etc.
Oui,
il y a un
vrai
effet miroir qui est finalement assez fort. C'est pas toujours le cas quand on lance un projet média. On est parfois moins proche de sa cible. On a vraiment l'impression, finalement, que autant la cible que la lectrice.
Ouais, c'est vrai, mais en fait c'est parce que je l'ai fait
autant la cible que la patronne.
Par intuition, en fait, parce que je n'ai pas eu une réflexion business ou stratégique avant, j'ai tout fait un peu au feeling, et bon, ça a aussi de grosses limites, mais en tout cas, voilà, comme je le fais porté par mes propres envies, ça donne ça. Mais du coup, je me dis, comment il va évoluer ? Est-ce qu'il va évoluer avec mes propres goûts ? Je ne sais pas.
T'as l'impression déjà que ça a évolué sur ces 5 numéros ? Mine de rien, c'est un temps long sur un semestriel. Est-ce que c'est toi qui as évolué ? Est-ce que le magazine a évolué ? Est-ce que c'est le contact avec l'équipe ? Le contact avec ses lectrices ou avec ses femmes que tu interviews ? Si c'est passé quelque chose ?
À chaque fois, j'ai l'impression quand même, quand on sort, je me dis, ce numéro, il est encore mieux, il est plus abouti. Je pense qu'il est plus abouti dans le sens où il y a moins encore de compromis, de dire « ce sujet est un peu moins bien » sur, je sais pas, la photo ou la mise en page ou un petit truc un peu un accro qui n'est pas complètement... Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus ça. Je l'ai construit visuellement. Enfin, du coup, c'est lié à mon métier aussi, mais je l'ai construit vraiment visuellement, les sujets. Donc, j'avance en même temps sur le fond et la forme, et c'est ça qui m'éclate le plus. Mais ils sont... Ouais, je pense plus abouti dans le temps aussi de lecture. J'ai l'impression qu'on a un rythme peut-être un peu plus correct, je ne sais pas comment dire aussi. Il est plus, peut-être plus fort aussi en engagement, mais ça, je pense que ce n'est pas totalement lié à nous, c'est lié à la société, les personnalités qu'on interviewe, c'est dans l'air, donc ça se ressent.
Oui, mais entre le moment où vous êtes lancé
évidemment.
Ça force les choses aussi un petit peu bouger. Ouais. C'est un sujet qui est redevenu très très fortement sur le devant de la scène. Il l'était peut-être un petit peu moins
complètement.
Au lancement.
En fait, justement, je me dis, il y a toujours des questions de timing, mais c'est vrai qu'on est sorti au moment où il y avait d'autres MOOC sur ce même format qui sortaient sur des thématiques différentes. Donc je me disais que c'est bien. Ça veut dire qu'il y a on a identifié tous un vrai regain d'intérêt pour la lecture, sur des temps de lecture différents, d'un moment un peu particulier qu'on s'offre sur un objet qui a quand même un certain prix. Et après, en même temps, il y a toute cette vague de féminisme qui est arrivée, mais après, que moi j'ai lancé ce féminin. Et ensuite, Aujourd'hui, il y a toute cette vague sur l'entrepreneuriat au féminin aussi. Donc, on a assez vite fait de nous mettre une casquette aujourd'hui de ce magazine de l'entrepreneuriat féminin. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et je veux justement essayer de peut-être un peu mieux présenter notre positionnement en disant que c'est plutôt des parcours au sens large, dont des entrepreneurs, mais pas seulement.
Oui, puis avec une notion finalement d'équilibre et d'épanouissement dont tu parlais tout à l'heure, qui est plus importante peut-être même que cette notion d'entrepreneuriat, qui en fait partie, puisque
exactement,
ça fait partie des ambitions,
ouais.
mais c'est l'équilibre au final la clé.
Ouais, c'est complètement ça. C'est comment on se révèle chacun par rapport à son propre, ses propres envies. Et bon, ça peut passer par l'entrepreneuriat si on a vraiment un projet à porter ou plein d'autres aspects. Et c'est vrai que moi, je veux pas non plus mettre en avant que cet entrepreneuriat qui est assez à la mode aujourd'hui et dire que ça passe, enfin, un épanouissement passe forcément par ça. Je crois pas. Donc, je voudrais pas qu'on diabolise à côté. Les salariés.
C'est bien.
Je trouve
ça
un peu
parfois
dangereux, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on va faire une scission un peu dans la société. Et puis, en plus, ça ne correspond pas à tout le monde. Moi, personnellement, je ne me vois pas entrepreneur. En vrai, j'ai l'impression que ça m'a rattrapée après coup, parce qu'il y a plein de questions qui s'ajoutent chaque jour. Et en fait, j'apprends sur le tas. Mais à la base, je me dis que j'étais une DA. Je travaillais sur le visuel dans le magazine. J'ai voulu aller plus loin et apporter, en gros, mes sujets. Aujourd'hui, du coup, d'avoir une réflexion de fond et de forme, et c'est ça que je préfère par-dessus tout. Mais
ça nous permet de revenir au début. C'est quand même une réflexion à la fois de DA, une envie dans le fait de te lancer. Tu parlais d'insatisfaction par rapport à ton métier, mais en même temps, tu avais quand même déjà fait un choix qui était plutôt de travailler en indépendante à tes débuts. Donc, il y avait quand même, si ce n'est de l'entrepreneuriat, en tout cas, une envie de plutôt être à ton compte. La différence entre les deux n'est pas forcément très, très éloignée.
C'est vrai, mais en fait, c'est presque un choix que je n'ai pas fait parce qu'au début, on va dire que mes premiers boulots...
En fait, on ne veut pas t'embaucher et donc tu deviens indépendant.
Ça se fait comme ça. Comme je travaille dans des magazines indépendants, ils ne peuvent pas me prendre en CDI. Je me dis, bon, ok, on va faire comme ça. Il y a cette régularité dans les parutions des magazines que je réalise qui fait qu'il y a une certaine sécurité qui me rassure. Et puis finalement, en fait, je prends vraiment vite goût à cette liberté et à ce rythme un peu irrégulier entre les bouclages, ces périodes de rush que j'aime bien parce que j'ai besoin aussi un peu de pression, et en même temps ces périodes un peu plus calmes, on est un peu plus dans la réflexion, dans la recherche, dans la veille, et ça j'aime bien. Et aujourd'hui alors peut-être que ça s'est fait pas complètement par hasard, j'en sais rien, mais en tout cas je me verrais absolument pas dans une structure, je pense que ça me correspond pas, et ce que j'aime le plus dans tout ça c'est la liberté.
C'est souvent ce que disent les entrepreneurs, en fait, finalement, s'ils ont fait ça, c'est aussi finalement une certaine quête de liberté, avant même une quête sur un projet précis qu'ils avaient envie de mener.
Ouais, je pense que c'est assez juste.
Sur les débuts, tu parlais d'insatisfaction, c'est ça le moteur principal? C'est une insatisfaction liée à ton métier, ou c'est le sujet et l'envie de parler de ce sujet, ou c'est l'envie de lire autre chose?
Non, ça part d'envie de... En fait, ça part de mes enfants. C'est que clairement, à la naissance de mes enfants, j'avais au fond de moi un truc où je me dis, bon, ça fait X années que je fais ça, mon métier, ça se passe bien, je suis plutôt contente. Par le réseau, le travail vient comme ça. Seulement, au bout d'un moment, en fait, j'ai pas fait réellement de choix. En fait, c'est un peu quand je devais, admettons, présenter mon travail ou un rendez-vous, je me disais, bon... En fait, je suis un peu embêtée parce qu'il n'y avait jamais genre, le boulot dont je suis méga fière. Je me dis, je suis vraiment contente de le montrer. Il y a zéro compromis. Je trouve que c'est de A à Z complètement moi. Et en fait, je me dis, va falloir que je fasse un peu mon projet perso de cœur, que je puisse complètement revendiquer, porter.
Et tu parlais de tes enfants, c'est quoi? C'est pouvoir le revendiquer finalement auprès de tes enfants?
C'est-à-dire,
ça, c'est ce que maman, elle a fait, c'est ce qu'elle porte, et c'est ses valeurs, son travail, son...
Ouais, c'est de se dire, je fais ce travail-là, j'en suis fière. Il y a à côté d'autres boulots qui peuvent être complémentaires, mais en tout cas, il y en a un qui, dont j'ai pas à rougir. Et ça, en fait, ça a mis un peu une urgence par rapport à cette question-là. De se dire, on peut attendre comme ça indéfiniment que ça se présente, mais ça se présente peut-être pas. Après seulement quand je me suis, entre guillemets, autorisée à me dire, je vais faire ce projet. Dont je pourrais être totalement fière. C'est là où je me suis commencé à me questionner, mais en fait, c'est quoi ce projet? J'en sais rien. Finalement, le magazine, je ne l'avais jamais imaginé avant de pouvoir lancer un magazine, mais c'était assez logique parce que c'est ce que j'aimais et c'est ce que je savais faire. Et seulement après, je me suis dit, mais je veux qu'il parle de quoi? Et tout simplement, c'est venu progressivement, mais les femmes n'étaient pas le point,
c'était
pas le moteur. C'est parce que finalement, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est quand même les autres femmes, leur parcours. Je suis curieuse de savoir comment elles en sont arrivées là, quelles sont leurs questions. Et en étant moi-même en recherche de ce sujet.
Justement, c'est parce que tu t'interrogeais aussi sur toi, sur ton parcours. Tu utilises des mots forts, ce côté, mais qui est un mot qui revient très souvent. Mais je me suis autorisé à penser que je pouvais faire ça, ou que je me suis autorisé déjà à le faire. C'est quand même un mot assez fort. Ça montre des blocages et des verrous quand même derrière qui sont puissants. C'est aussi cette volonté d'aller interroger ça sur les femmes autour de toi qui t'ont amené d'aller vers ce sujet.
Ouais, je pense, oui. Du coup, c'était un peu comme si tout s'emboîtait. Mais comme je disais, c'était pas si simple de me dire je vais aller que vers des femmes. Je pense qu'en effet, c'était quand même un peu nécessaire de resserrer aussi le spectre. Et finalement, il est quand même très large parce que j'aborde toutes les thématiques avec la culture, la société, l'entreprise. Mais je me dis presque toutes ces femmes pourraient rentrer dans toutes ces rubriques. Seulement, à un moment donné, on a choisi tel angle pour les approcher et potentiellement elles sont, et c'est ce que je voulais aborder, ce côté multifacette, de ne pas être un peu réducteur comme il me semble, on le montrait souvent dans d'autres magazines où on nous montrait que, je sais pas, sous des casquettes un peu réductrices, quoi.
Mais au final, d'ailleurs, c'est lisible par tout le monde pour l'avoir parcouru assez souvent, même si tu avais l'air de dire que les hommes étaient sans doute assez minoritaires, parce que c'est pas la cible principale, mais en vrai, quand on lit le magazine, quand on lit les parcours des unes et des autres, finalement, je pense que ça nous concerne tous, en fait. C'est aussi inspirant un petit peu pour tout le monde.
Oui, en fait, après, si on est curieux, c'est de l'humain. Et du coup, ça s'adresse à tous. D'ailleurs, je travaille quand même pas mal avec des hommes dans l'équipe, dans le petit noyau qui m'aide à réaliser chaque numéro. J'ai des journalistes et photographes masculins. Je fonctionne beaucoup avec... En fait, il part aussi de cette envie-là. C'est que j'ai, jusqu'alors, avant ça, beaucoup travaillé dans l'univers masculin, dans le sport, dans la tech, dans le design. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, j'avais envie d'aussi peut-être de parler de part plus féminine, mais voilà.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on avait eu la discussion dans ce podcast avec Julia Tissier, qui est une des cofondatrices de Cheat Magazine. Est-ce que toi, tu as l'impression de faire un magazine féministe ou un magazine féminin ? Est-ce que ça mêle forcément les deux ?
Ah, c'est une question difficile. Je ne suis pas hyper à l'aise avec ça parce que aujourd'hui, cette question, elle est omniprésente et c'est vrai que... J'avais pas vraiment pressenti avant quand je l'ai lancé, mais comme je te dis, j'étais gênée par ce mot féminin que je trouvais connoté. Ça pouvait être un peu superficiel, un peu trop girly. Enfin, et je me dis il faut aussi l'assumer et ça peut changer les choses. Donc aujourd'hui, je dis que c'est quand même un féminin, mais féministe, il l'est oui parce que je me dis qu'au travers des actions des femmes que je montre, ça donne envie de se réaliser, d'y croire. Je me dis qu'on ouvre la voie. Après, j'ai un discours assez revendicatif et
il n'y a pas d'obligation à avoir un discours très militant.
Oui, c'est ça, je pense que c'est notre approche au féminisme. Oui, c'est une approche féministe et je pense qu'on en a encore besoin. Donc pas évident. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur le sujet, qui le font mieux que moi.
Tu préfères leur laisser la parole là-dessus. Je reviens sur les débuts, le premier numéro. Une fois que tu t'es dit, je vais me lancer dans cette aventure, je vais essayer de créer ce magazine. J'imagine que sur toute la conception, justement, de direction artistique, etc., comme c'est ton métier, tu as une idée assez précise. Est-ce que ça a été compliqué de te frotter au volet plus journalistique, c'est-à-dire de te dire, je vais aller faire des interviews, il faut que je fasse des portraits, et il y a beaucoup de choses que tu écris toi-même. Et puis, sur la conception haute, c'est-à-dire se dire, je suis capable de le faire et de le fabriquer, mais comment je le vends, comment je vais chercher du public. Ça a été quoi tes interrogations principales à ce moment-là ?
Alors, c'est vrai que la plus grande envie à attendre, c'était de concrètement passer sur l'aspect formel, design. J'avais plein de choses en tête. Après, on ne pouvait pas non plus se disperser et faire un peu toutes les formes. Donc, il a fallu quand même synthétiser, trouver un univers, une identité. Donc, ça, c'était mon métier. Bon, ça a pris le temps qu'il fallait. Après, sur les formats...
Le temps de conception, ça a été combien de temps ?
En fait, je n'arrive pas à me souvenir, mais j'ai presque l'impression que j'ai mis autant de temps à faire le premier numéro que la campagne de crowdfunding qui l'a accompagné. Donc, j'ai envie de dire 3 mois, je sais pas en fait, je me souviens plus. J'arrive pas à me souvenir du moment. Il faudrait que je regarde simplement.
En fait, bah parfois, il n'y a pas un moment précis en fait.
C'est le point de départ, ça a été un article que j'ai mis sur mon site en disant bon voilà, je vais lancer un magazine. Et je me dis ça, ça a été le point de départ et ça m'a obligée. En fait, ça m'a engagée vis-à-vis de mon lectorat et des gens de mon entourage. Je me dis bon bah voilà, j'avais cette envie, je l'écris et maintenant. C'est parti quoi. Donc, et après je ne sais plus combien de temps s'est passé entre cet article et la sortie qui a été en juin. Je ne sais pas, mais...
Le choix, tu parlais de financement participatif à ce moment-là, le choix justement de passer par ce type de financement, c'est un choix de financement, c'est un choix d'obligation, de se dire que finalement le faire publiquement, d'embarquer des gens dans l'aventure, bah, c'est un peu se mettre un coup de pied au cul et s'obliger à aller au bout du truc.
Ouais, c'est déjà une première violence, se dire bon bah là tu sors du cadre, de ton petit confort et de ton idée derrière ton ordi, tu le confrontes aux autres et ça permet de tester son projet, parce que s'il n'y avait pas eu du tout d'intérêt ou d'engouement, je me serais dit bon bah en fait ça parle qu'à moi, ça sert à rien, et puis ça peut être très bien, mais bon du coup ça change un peu la donne. Finalement c'était assez fou de voir comment les gens s'approprient le truc, ils sont eux-mêmes ambassadeurs et font leur effet boule de neige de leur côté, donc ça a bien marché. C'est quand même aussi un vrai boulot, parce que je me souviens que pendant la campagne, j'ai l'impression d'avoir fait que ça toute la journée, donc mais j'en garde
ensuite une belle ronde de lancement,
souvenir génial. Après
on se dit quoi à ce moment-là, justement, quand on dit putain, mon idée en fait, il y a des gens en face qui ont l'air d'avoir envie que ça aille au bout. C'est un sacré booster, quoi.
Ouais, ça fait peur, parce qu'après quand même je pense à la déception, je me dis faut pas qu'il y ait de déception derrière. Ils sont prêts à mettre de l'argent avant même d'avoir vu le produit. Il faut pas que ce soit déceptif, faut qu'en plus l'idée c'est qu'il n'y ait pas qu'un numéro, donc il faut se renouveler derrière. Donc bon, il y a tout ça, mais en même temps on pense pas, on pense un peu au jour le jour, enfin en tout cas à court terme, donc voilà. Après, pour la production même du numéro, j'avais, de par mes boulots précédents, enfin en tout cas, ou mon expérience à côté, déjà mon réseau, on va dire, de journalistes, pigistes, photographes, donc j'avais déjà avec qui travailler, et puis je suis allée solliciter des gens dont j'avais envie d'apporter le talent aussi, donc ça s'est fait comme ça. Les formats, c'est un peu, voilà, de mettre sur papier toutes ces envies de qu'est-ce qu'on a envie de lire, et de le composer comme ça, un peu comme un squelette, on fait son chemin de fer, et ça avance... comme ça, après...
Le deuxième numéro, il est difficile. On a souvent une énergie particulière sur un premier numéro, c'est son premier bébé, donc on passe beaucoup de temps dessus, on le fait très très bien, etc. Est-ce que le deuxième, finalement, est-ce que très vite, est-ce que tu avais déjà une vision en fait, de ce que ça allait pouvoir devenir sur 2, 3, 4 numéros, ou est-ce que finalement, ça, t'as mis beaucoup de choses dans le premier, puis après, bon, bah, c'est voilà, maintenant comment je fais un deuxième, comment je fais un troisième, ça devient une autre aventure un petit peu quand même.
Alors j'ai vraiment l'impression qu'on a redémarré de zéro pour le numéro 2. On n'avait pas de sujet prévu à l'avance, on n'avait vraiment pas d'envie, enfin si, des idées, on avait toujours des idées collectées, mais il avait fallu, c'est comme si on appuyait sur un bouton et démarrer de zéro, et ça a été un peu le cas à chaque fois, sauf maintenant, j'ai l'impression que ça commence à se lisser un peu en termes de rythme, être un peu moins dans les rushs, à plus faire des bouclages de nuit, enfin voilà, ça se met en place. Je pense que je dois mieux gérer le temps de production nécessaire pour réaliser un numéro, et tant mieux, parce que c'est quand même à chaque fois une grosse, grosse fatigue.
Et aujourd'hui, tu arrives justement à, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais à projeter une ambition. Ça fait 5 numéros, ça y est, tu peux commencer à dire, bon, bah, on a franchi les premières étapes, mine de rien, la marque existe, on arrive à le produire bien à chaque fois, ça a l'air de tourner, etc. C'est quoi la suite? Est-ce que tu commences justement à malgré tout te projeter un peu comme une... patronne d'une petite entreprise qui s'appelle Les Confettis, et à te dire c'est quoi les étapes suivantes, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, qu'est-ce que j'ai envie déjà moi personnellement fondatrice d'en faire, ou est-ce que j'ai envie d'aller avec ce bébé là
J'ai envie qu'il continue à grandir et que bah il acquiert en notoriété. Pour ça passe par une plus grande diffusion. J'ai envie de notamment de rentrer dans les relais qui correspondent, je pense, complètement au type d'achat et de lecture de notre lectorat. Donc là, c'est un peu notre objectif assez court terme, quoi. J'aimerais bien que dès le prochain numéro, déjà, ce soit le cas. Donc on est en discussion, mais du coup, ça passe par d'autres questionnements et un peu plein de choses que je ne voulais pas forcément faire, à savoir des distributeurs. Enfin voilà, il faut que je questionne. Après, c'est Alice,
rentrer
MLP,
dans un
etc.
Système compliqué, ouais.
Voilà, je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais... C'est peut-être le moment. Donc il y a ça comme premier objectif un peu à court terme et qui je pense peut donner un vrai second souffle et être assez nécessaire.
La gestion de la périodicité c'est posé, d'essayer
ouais,
d'en
posé
faire plus
régulièrement.
Ou de, d'être plus régulier sur le web, de multiplier les événements parce qu'effectivement comme tu le disais à un moment, le potentiel finalement autour de la marque est dans l'absolu, ensuite c'est jamais si simple à mettre en place, mais dans l'absolu important aujourd'hui.
Alors moi j'ai on pose souvent la question de la périodicité, mais je reste convaincue pour l'instant que le semestriel ça nous correspond. Je pense que ça permet de créer une certaine attente et du coup je peux affirmer que nos lectrices elles ont vraiment la collection complète, il y a cette envie de l'avoir complète et du coup de nous suivre vraiment. Et je pense que si on passe en trimestriel, bon déjà c'est un rythme de travail et ça sera un objet différent, il pourrait sans doute pas être de cette pagination là parce qu'il fait 200 pages, mais je pense aussi que nous on serait dans un rythme un peu permanent et ça serait un peu ça serait foncièrement différent. Et en même temps, je pense qu'on pourrait facilement, en tant que lecteur, dire « bon, c'est pas grave, j'ai loupé ce numéro, je prendrai le prochain ». Je pense qu'on enlèverait un peu de ce côté un peu précieux et d'attente
c'est la rareté
qui nous
qui
correspond.
Fait une partie de la valeur,
voilà. Et en plus, ça reste un rythme soutenu parce que quand on fait la production, après on passe à la diffusion, la promotion, après on repasse sur la production et j'ai l'impression que sinon on serait sans cesse en train de tout faire en même temps. Pour l'instant, je me sens pas capable d'accélérer et j'en ai pas l'envie. Donc voilà, après j'aimerais bien aussi évoluer un peu différemment, à savoir un peu en tant que maison d'édition. J'aimerais bien continuer
le côté
sur
créateur,
l'objet.
Et ouais, reprendre voilà. Le dessus et finalement tu as envie de lancer des nouvelles choses.
J'ai envie de lancer des livres et partir sur l'objet et du coup être un peu plus dans cet aspect-là aussi. Développer le site qui je trouve n'est pas encore. Je pense qu'il y a pas mal de ponts à faire entre le print et digital et je pense qu'il faudrait que nos lignes éditoriales s'emboîtent encore plus, qu'il y ait un peu plus de renvois de l'un à l'autre et du coup ça fait j'aimerais aussi un peu revoir des aspects d'identité enfin bon il y a beaucoup de sujets
à revoir la relation avec les lectrices dont tu parlais tout à l'heure les événements physiques au-delà de la fête de lancement des numéros etc. Est-ce que c'est un lien que vous avez envie d'installer? On voit de plus en plus dans les médias des systèmes de clubs de membership de choses comme ça où justement en fait le média est aussi avant tout une manière de se rencontrer, d'échanger, de partager finalement des sujets en live et puis de temps en temps il y a des émanations papier ou web ou via du podcast ou autre, mais où finalement cette dimension physique est très forte. Sur ce type de communauté, c'est souvent des choses où les lectrices, en l'occurrence, sont assez à la recherche aussi de pouvoir s'inspirer en se rencontrant via des tables rondes, via des choses comme ça.
J'ai l'impression qu'en effet, elles sont assez demandeuses, nos lectrices, de ce type de rencontres. Moi, ça partait d'une envie de rendre les rencontres qu'on met en avant dans le papier plus concrètes. Et c'est-à-dire qu'elles ont aimé une personnalité, elles ont peut-être envie de l'entendre s'exprimer sur son sujet. Donc, c'était plutôt l'envie de faire vivre des expériences à nos lectrices et à chaque fois autour de thématiques un peu différentes. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs ou d'animations ou de discussions qui sont proposées aujourd'hui. Donc, je me dis qu'on n'est peut-être pas les mieux placés pour le faire. Et c'est vraiment un autre aspect, une autre organisation. Je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même assez lourd à mettre en œuvre. Parce qu'en plus, entre les interventions qui sont différentes, le lieu qui est différent, le format gratuit, payant. Enfin, on fait un peu à chaque fois des formules différentes. Je pense pas que je vais mettre plus d'énergie que ça pour l'instant dans peut-être le développement de ce type d'événement. Je préfère développer un peu plus de fonds ou d'objets.
Et sur justement ces objets et ces livres que tu as envie de développer, ça reste sur des thématiques qui sont similaires aux confettis ou c'est quelque chose d'une branche nouvelle vers laquelle tu as envie d'aller?
Ça serait plutôt une branche nouvelle, on va dire un peu dans le même ADN, mais avec une cible plus jeune.
D'accord.
Donc, voilà.
Tu ne veux pas en dire plus pour l'instant.
Ça m'engage déjà un petit peu, donc je me dis que c'est un bon premier pas ici. Et après, j'espère que dans pas trop longtemps, vous le verrez concrètement.
Recommencer le « j'annonce » et comme ça, je m'oblige à le faire.
C'est ça,
et tu pourras revenir en parler dans quelques mois. Sur ton parcours à toi, tu as pu bien t'entourer justement en tant que finalement fondatrice, mais qui n'est pas vraiment une fondatrice de l'entreprise, parce que ce n'est pas vraiment une entreprise, mais bon, quand même, c'en est une un petit peu. Et donc, j'assume, mais pas trop. T'as su justement, ou à travers des rencontres que tu as pu faire dans ces femmes que tu as interviewées, ou à travers ton parcours professionnel, tu t'es aussi un peu entouré de mentors, de personnes un peu inspirantes qui t'ont aidé à construire, à avancer et à faire des confettis, une aventure qui se construit petit à petit.
Alors je commence à me dire que justement, il faut que j'interroge plus concrètement ces femmes que j'ai la chance de croiser pour qu'elles-mêmes puissent me donner, entre guillemets, des tips dans l'aspect mentoring pour mon propre projet. Jusqu'à présent, je ne les ai pas questionnées pour moi, je les questionne sur elles, donc je n'ai pas osé franchir ce pas. Et je me dis, bah, en fait, c'est un peu dommage aussi de ne pas en tirer... quelque chose de positif que je peux mettre en application. Après, plus concrètement sur l'équipe, le plus dur pour moi, ça reste ça. Ça reste la notion d'équipe. J'aime, je parlais de liberté, mais d'indépendance. J'aime bien aussi être dans ma petite bulle. Quand je suis en mode créa, ça me plaît d'être... enfin, cette dimension un peu d'artiste. Et du coup, c'est difficile parfois de travailler en équipe, de partager sa vision. Surtout que ça passe, je trouve, beaucoup par le visuel et l'identité, en tout cas dans mon esprit. Et donc, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en mots et à diffuser. J'ai eu des fonctionnements d'équipe assez différents depuis le début. Et puis maintenant... En fait, je suis très heureuse parce que les personnes qui travaillent avec moi sont des personnes qui sont venues parce qu'elles croyaient au projet et qui m'ont rejoint par sollicitation spontanée, on va dire. Et j'ai trouvé la place pour elles au fur et à mesure dans l'équipe. Et en fait, maintenant, je crois que je vais en tout cas fonctionner que comme ça. C'est quand en fait, j'ai un peu un coup de cœur suite aux sollicitations que je reçois assez régulièrement, on va dire, par mail. Et du coup, après, ça donne lieu à des rencontres. Et je me dis, ah bah tiens, en fait, tu vas développer ça, tu vas faire ça. Et du coup, je suis plus en mode un peu...
Pour avancer, il faut lâcher un petit peu son bébé.
J'ai vraiment envie de lâcher, d'être accompagnée. Mais c'est trouver la bonne façon de faire et en même temps, tout en indépendance, et en y allant pas trop vite, et sans structure très, très, très formelle. Quoi. Donc, ça se fait un peu comme ça. Mais...
Est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais relancer les confettis, tu le referais de la même façon, avec toujours ce côté, finalement, très modeste dans la façon d'avancer, ou finalement, si là, aujourd'hui, tu devais relancer vraiment un projet comme ça, tu dirais, bah, en vrai, quand même, faut peut-être y aller un peu plus fort, ou avec un peu plus d'ambition dès le départ?
Ouais, peut-être que je mettrais plus de moyens financiers pour le développement, ou de structure. Peut-être qu'on aurait développé plus une communauté en amont, alors qu'en fait, elle grandit avec nous. On ne s'est pas assez appuyé sur ça parce que ce n'était pas assez fort dès le début. Bon, il y avait déjà un petit lectorat, mais il continue de grandir avec nous. Je pense que je pourrais beaucoup plus impliquer justement ce lectorat et notre communauté dans le développement. Je ne le fais pas assez, mais... Parce que ça me semble être... en tout cas, je ne saurais pas encore comment l'aborder ou comment dégager du temps, moi, pour gérer ça. Je pense qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore assez de temps disponible pour tout mener. Donc, je fais un peu plus ce que je peux maîtriser. Et voilà. Mais oui, il y aurait plein de choses que je ferais différemment. Après, il y a plein de médias là, sur le féminin en ce moment. Donc, peut-être que en fait, ça n'aurait pas du tout pris ou ce serait, l'ambition aurait été différente.
Qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait basculer à plein temps ?
Admettons que les relais, ça soit un énorme succès et que ça vende beaucoup. Je me dis, ben, pourquoi pas, en fait. Ça pourrait être ça. Déjà, ça ne va pas être loin, parce que là, avec ces projets de livres, ça va quand même aussi prendre du temps.
On n'est pas loin.
Je ne sais pas.
Il reste ce petit doute. Ouais. Juste pour terminer, évidemment, dans les gens qui nous écoutent, il y a pas mal de gens qui ont envie de se lancer, qui sont comme toi, qui ont déjà commencé à lancer des petits projets. Qu'est-ce que tu as appris, quelle échelle tu as pu avoir, quel mur tu t'es pris, que tu peux transmettre en te disant, bah, ça, c'est toujours bien d'avoir ça en tête, ça peut permettre d'avancer ou d'éviter de faire ce type d'erreur.
Bah, le premier truc, c'est, je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions et quand même se lancer. Je me dis, bon, au moins, j'avais un peu ça en moi, ça m'a permis de peut-être pas freiner trop longtemps entre le moment où j'ai décidé de le faire et de le faire concrètement. Non, je pense que ça, c'est bien. Il faut quand même avoir cette inconscience. Après, je regrette de ne pas être allée... questionner, rencontrer des gens qui étaient passés par là sur des projets très proches ou même un peu plus éloignés, mais qui sont toujours source de bons conseils. Et en fait, je me rends compte que c'est dommage d'avoir et c'est pas faute de... On me l'a dit, mais je pense que je n'ai pas écouté suffisamment par timidité, ou en fait, j'avais assez peur que ce soit vu comme de la concurrence, alors que...
Les gens partagent assez facilement quand on va les voir sur leur projet.
Exactement, en fait, justement, les gens, je pense qu'ils sont vraiment en demande de ça, ils ont envie de partager, et je trouve que c'est dommage. J'aurais sans doute eu plein de bonnes leçons à tirer, et j'aurais sans doute fait peut-être pas les mêmes erreurs, ou j'aurais avancé plus vite. En tout cas, je me dis, il faut vraiment le faire. Aujourd'hui, on est, enfin, c'est facile de solliciter les gens et d'avoir des retours. Donc, voilà. Ça, et du coup, je me dis maintenant que je commence à le faire plus et à solliciter un peu plus les conseils et ça marche. Encore une fois, juste oser finalement. Le plus dur, c'est de demander et finalement, on s'attend toujours à un non, mais il est plutôt peu présent et c'est même la même réflexion que je me fais quand je sollicite des femmes pour les présenter dans la revue. En fait, j'ai un peu peur ou en se disant ah bah non, quand même, elle va pas. Mais en fait, les gens disent tout le temps oui. Donc,
oser se lancer, ouais, oser demander. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci à toi, Périne, d'être venue nous voir. Merci à Germain Calsou pour la réalisation. Merci au Temple qui nous accueille toujours pour l'enregistrement de ces podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur iTunes et sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu et on se retrouve très bientôt. Au revoir.